Alors oui, c'est vrai qu'on avait vraiment sur le cœur de parler sur le premier amour, de ne pas oublier le premier amour. Pourquoi? Parce que la vie, elle va tellement vite que parfois on oublie les choses. Et on avait vraiment à cœur de le faire à deux parce que, comme Bruno l'a bien dit, bah c'est vrai que la notion de couple dans l'Église est importante. Nous sommes l'épouse et Dieu, c'est notre époux. J'ai bien aimé, j'ai écouté un petit peu ce que, enfin, j'ai écouté tout le message de Bruno hier soir sur l'alliance, quand il a parlé de l'alliance. Et j'ai bien aimé quand il disait que c'était un amour sans condition. Un amour également où, justement, on n'attendait pas spécialement plus, mais on donnait simplement comme ça. Et alors, j'attends juste que ma diapo soit disponible. Voilà. Le premier amour dans le couple, je pense que ça se perd. Et même le mot amour de nos jours se perd un petit peu. Souvent on se dit, bon, bah, si ça va pas, il y en aura un autre. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on se dirait, bah, si ça va pas avec Dieu, il y aura un autre Dieu? Je ne pense pas. En tout cas, pour aller là, ça veut dire qu'on a vraiment oublié notre premier amour. Quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous avons? On sait très bien quelles sont nos valeurs à nous personnelles, les valeurs du monde, mais on sait également quelles sont les vraies valeurs pour Dieu. Moi, personnellement, Claudio, j'ai préservé mon premier amour, avant tout pour Dieu, mais aussi pour ma femme. Et quand je parle du premier amour, je ne parle pas juste de mes sentiments, mais aussi même au niveau de la relation sexuelle. Ça peut peut-être choquer de comparer à cela, mais c'était une réalité pour moi. C'était ne pas coucher avec une autre femme que ma femme. Et j'ai même été plus loin. C'était je ne voulais pas poser mes lèvres sur une autre femme si ce n'est pas ma femme. Et je sais que ça, c'était dès l'âge de 8 ans. Et je me rappelle une fois à la récréation, il y a une fille, elle avait mis du rouge à lèvres. En plus, moi, j'aimais pas du tout le rouge à lèvres. Et elle est venue, elle m'a fait un bisou. J'avais un peu de ses traces ici. Et sur ma cagoule, vous vous rappelez les cagoules, ceux qui ont connu les cagoules? Et j'avais la moitié de ces deux autres lèvres. Et je me suis regardé dans le miroir et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je pleure parce que j'ai dit que la première fille sur qui j'allais poser mes lèvres, ça serait ma femme. Et j'ai dit, et je veux pas qu'elle soit ma femme. Et j'ai reçu dans mon cœur que c'était pas un acte volontaire de ma part. Et ma rencontre avec Dieu, c'était la même chose en fait. Parce que je savais que Dieu nous aimait. Au fond de l'église à Marcambord, il y avait toujours Jean 3,16 qui me persécutait quand je lisais. Et je disais, ben non. Et je voulais aimer Dieu de tout mon cœur. Mais j'y arrivais pas. Mais je voulais, Seigneur, je disais, Seigneur, le jour où je ressens ton amour, je le sais, je le serai. Et je veux être sûr de mon choix. Parce qu'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas possible. Et quand j'ai rencontré l'amour de Dieu, tout a changé. Et j'ai compris ce que c'était que la bénédiction et l'alliance, comme Bruno a dit, et non le contrat. Parce que j'ai rien signé quand j'ai senti l'amour de Dieu. C'est tombé comme ça sur moi. Je vous invite à prendre Marc 12, versets 18 à 38. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa la postérité. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Les Sadducéens, c'était des malins. Ils aimaient bien titiller. Des fois, ils se posaient des questions de fous quand même, vraiment. Parce que ils étaient, c'est vrai qu'ils, je pense, dans leur cœur, ils étaient sincères dans un sens, mais ils essayaient vraiment de déstabiliser Jésus. Donc déjà, ils venaient un petit peu par rapport à la loi, par rapport aux prescriptions et par rapport aux traditions. C'est un petit peu comme si qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'il m'en voudra pas si je prends l'image, mais si, admettons, aujourd'hui, je suis marié avec Caro, j'ai pas d'enfant, Ignace n'est pas marié, il n'y a pas d'enfant, je meurs, c'est comme si Caro devrait se marier avec Ignace. Donc c'était un petit peu toutes ces choses-là. Mais voilà. Et eux, leur question, c'était, ben, quand il va mourir, quand elle va mourir, avec qui elle sera mariée? Et Jésus, lui, il balait tout ça. Il leur dit, vous n'avez pas compris. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Et ensuite, il commence à questionner Jésus en disant, quel est le premier commandement? Quel est le premier commandement? Et Jésus leur répond, écoutez Dieu, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est la même chose dans la vie d'un couple quand on s'engage. Et le verset 31 nous dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On voit qu'au-delà du raisonnement ou même des lois ou autres, Jésus, il ressent tout à une seule chose, c'est l'amour. Et la Bible, c'est un message d'amour. Et c'est ça qui fait notre force, nous, en tant que chrétiens. C'est l'amour. Quand on est persécuté, on doit demeurer dans l'amour. Quand on est attaqué, on demeure dans l'amour. Mais est-ce qu'on demeure dans l'amour par religiosité ou est-ce qu'on demeure dans l'amour parce qu'on est vraiment dans l'amour, dans le premier amour de Jésus? On va prendre un passage dans Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ça, c'est déjà des caractères vraiment forts. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jetterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux sept églises, aux églises, pardon, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. On y voit deux parallèles ici, deux parallèles d'amour entre Marc et l'Apocalypse. Dans Marc, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et on voit ici que les chrétiens d'Éphèse faisaient tout pour Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. C'était vraiment une église, une super église, quoi. Donc nous on aurait aimé avoir une église comme ça. Souvent, on se dit, ben moi, dans l'église, j'aimerais qu'il y ait ça. J'aimerais dans l'église qu'on puisse vivre ça. Ah, dans l'église, j'ai vu ça, mais ça me titille. Et on commence un petit peu à être regardant. Et notre motivation de base, elle est bonne, parce que la motivation de base, c'est d'aimer. C'est pour Dieu, on fait pour Dieu. Ça, c'est notre bonne motivation. Mais au bout d'un moment, il risque de s'écarter. Et on voit que l'église d'Éphèse, elle faisait des choses tellement bien. Moi, franchement, quand je vois ce qu'ils font, c'est génial. Ils arrivaient à discerner les faux prophètes. C'est pas toujours facile de discerner les faux prophètes. Ils arrivaient à dévier certaines choses. Ils arrivaient également à faire des œuvres. Des fois, une église active, c'est difficile, mais on voit que c'était une église active. Et l'église, elle était active, et on voit quelque chose qu'ils avaient oublié, en fait, dans toute leur activité, dans toutes leurs œuvres. Ils avaient oublié de faire les choses avec le premier amour. Parfois, dans la vie d'un couple, c'est la même chose. On fait les choses avec notre femme, avec nos enfants, et des fois, on oublie de les faire avec amour. On fait... On est agacé, on est frustré, on en a marre. Et parfois, quand on fait les choses où il n'y a plus le premier amour, on commence, que ce soit dans l'église ou dans notre couple, à faire les choses où on en a marre. Mais il y a une petite astuce pour ne pas en avoir marre. Souviens-toi d'où tu es tombé. À la fois, cette phrase, elle fait mal, mais à la fois, je la trouve plein d'amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Dans d'autres versions, j'ai lu, c'était écrit « Reconvertis-toi ». Reconvertis-toi. Repens-toi. Demande pardon. Et ce matin, on a été conduit justement également dans ce temps où on demande pardon également à Dieu. Éphèse était en train de tomber, de perdre son salut parce qu'ils avaient l'obéissance mais sans amour. Ou du moins, plus cette passion du premier amour. Je ne me permettrai pas de dire qu'il faisait tout ça sans amour. Parce que pour faire quand même ces choses-là, il faut quand même avoir un minimum d'amour. Mais ils avaient oublié cette passion pour Jésus. Et quand on oublie cette passion pour Jésus, on fait les choses. Mais le plus triste, c'est de se dire, au final, on fait les choses, mais je ne passe pas de temps avec mon Dieu. Je suis si loin de lui. Voici quelques points qui peuvent nous éloigner du premier amour. La religiosité, l'activisme sans passion, se justifier de nos actes en se donnant bonne conscience, en se disant « ça, je le fais pour Dieu ». La routine, ça, c'est le truc le plus dangereux. Parce que la routine, des fois, tout va bien, mais du coup, tu passes plus de temps parce que tout va bien. Souvent, c'est quand on va mal où on commence à essayer de combattre et gagner des victoires. Et quand tout va bien, on est un petit peu loin. Et la routine, c'est quelque chose de dangereux. Les épreuves, les blessures de la vie sont des choses aussi qui peuvent nous éloigner. Les mauvaises paroles. Combien de fois on a cru aux mauvaises paroles qu'on nous a dit à nous et du coup, on se disait « je suis indigne ». Ou des fois, le diable, quand il est venu nous accuser, et on s'est dit « je suis indigne ». C'est vrai, le diable a raison. Et on commence à avoir cette pensée-là, et du coup, comme le diable a raison, on ne va plus commencer à prier. Comme le diable a raison, on ne va plus chercher sa présence. Comme le diable a raison, on va commencer à déprimer. Alors que si on demeure dans sa parole et qu'on commence à lire que Jésus nous a racheté un grand prix, on va commencer à être dans son héritage. Et quand on rentre dans son héritage, on commence à se dire « Ok, je ne suis pas parfait. » Mais le Seigneur nous rachète. Et c'est là où on rentre encore dans son premier amour. Parfois, les mauvaises paroles que nous, on a dites, parce que parfois, il nous arrive des fois d'être mauvais ou d'avoir fait du mal. Et c'est là aussi où on doit revenir au premier amour. En se disant « Là, tu as craqué le sac. À toi de changer. Demande à Dieu de t'aider. » C'est une réalité. La solitude. J'avais pas prévu de mettre ce mot solitude. Et hier, quand j'étais en train de préparer, de finaliser mon message, Dieu m'a mis quelque chose sur mon cœur en disant « Il y a des personnes qui se sentent seules dans cette église. Il y a des personnes qui se sentent seules parce que la vie leur a fait beaucoup de mal. Et ils sont seuls. Mais moi, je les vois. Je les vois. » Et Zacharie, j'ai reçu quelque chose pour toi ce matin. Et Dieu dit, je te vois. La parole que j'ai reçue, c'est pour plusieurs personnes, mais elle est particulièrement pour toi. Dieu te dit qu'il te voit. Il te connaît. Il sait ce que tu fais. Mais surtout, il m'a dit de te dire un truc, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. Et je ne le dis pas juste pour te faire plaisir, je le dis avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu t'aime. Et n'en doute pas. Ne laisse personne te dire que Dieu ne t'aime pas. Tu as été racheté à un grand prix. Mais j'ai reçu aussi quelque chose dans mon cœur pour certaines personnes qui se sentent seules. Ça, c'est pas facile à dire pour moi parce que j'aime pas parler comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Certaines personnes se sentent seules parce qu'elles ont fait du mal autour d'elles aussi. Et Dieu demande à ces personnes-là aussi de demander pardon et d'aller demander pardon. Parce que ça, c'est une réalité. Quand on fait du mal, on commence à se retrouver seul également. Cette notion de repentance est importante. Dans la repentance, il n'y a pas la condamnation, mais il y a la grâce. Il faut retenir ça. Il y a la grâce. Comment demeurer dans son premier amour? C'est en passant du temps avec lui, en écoutant Dieu, en lui disant également ses joies, ses peines. Ses joies, ses peines. Lui dire tout notre amour, mais lui dire aussi notre incompréhension. Moi, j'en ai vécu des tas, des incompréhensions. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau parfois des amitiés, ou que ce soit même au niveau des études. Je me rappelle une fois, j'ai passé le brevet des collèges, la première fois, je l'ai loupé, je me suis dit, bah, de toute façon, franchement, j'étais tellement nul, mais franchement, je pensais comme ça, j'étais tellement nul que c'est normal que je l'ai loupé. Je me suis dit ça. Et deuxième fois, on m'a encouragé de le repasser une deuxième fois, j'étais pas obligé. Et je me disais, mais je suis tellement nul, ça sert à rien. Et on m'a encouragé. Donc du coup, je l'ai fait. Et en fait, la deuxième fois que je l'ai passé, j'ai pas été voir le tableau. Je me suis dit, non. Non, non, je vais pas le voir. Et au final, j'ai appris que je l'ai pas eu. Et je me suis dit, bah, t'as vu, je suis vraiment nul. C'est ce que je me disais, vraiment. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut être loin. Et pourtant, je connaissais Dieu. Mais quand je disais ça, au plus je disais ça, au plus je m'éloignais du premier amour. Et je me rappelle même, le soir même, j'avais une soirée avec des amis, et je vois une amie qui arrive en pleurant et tout. Elle va voir une autre amie, et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? T'as pas eu ton brevet? Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah bah, elle aussi, elle a pas eu, donc ça va, je suis pas le seul à être nul, quoi. Et je disais pas ça méchamment, je disais, pour me réconforter. Elle dit, non, si, je l'ai eu. Et l'autre amie, elle dit, bah, tu vois, je te l'avais dit, faut vraiment être nul pour pas l'avoir. Moi, je l'avais loupé deux fois. Alors là, je suis rentré chez moi, c'était la déprime totale. Mais j'étais consolé dans mon cœur. Parce que j'ai dit, Seigneur, je me sens nul. Je me sens faible et j'y arrive pas. Pour moi, c'était trop dur. Trop dur. Et quand les gens me disaient, mais c'est facile, ils n'arrivaient pas à comprendre que pour moi, c'était dur. Et j'étais en train de prier. Et c'est dans ces temps-là où j'ai demeuré dans l'amour. Parce qu'au lieu d'être écrit avec les gens qui pouvaient dire ben, « c'est nul et tout », je me suis dit ben, « c'est tout, c'est peut-être pas mon meilleur domaine, mais je sais que dans d'autres domaines, tu vas m'aider, Seigneur. » Et quand on est dans l'amour, dans le premier amour, Dieu, il nous parle autrement. Et on commence à voir les choses différemment. Et si aujourd'hui, tu te dis « t'es nul dans tel domaine ben, », il y a des domaines où il faut travailler et ça va aller, mais il y a d'autres domaines, ben, peut-être que t'es vraiment nul. Si tu chantes comme une casserole et que tu n'y arrives pas, c'est pas grave. T'as peut-être un autre don. Si t'es pas fort en dessin, c'est pas grave, t'as peut-être un autre don. Si t'es fort en maths, tant mieux, viens nous aider. Geoffrey, c'est pour toi. Pauline aussi. En lisant sa parole, en se confessant des péchés, c'est là où Jésus vient nous restaurer. Et en ayant l'espoir de faire croître, j'ai bien aimé ce que Bruno a dit, et c'est ce que je voulais dire également, c'est que quand on s'approche de Jésus, en fait, quand on revient au premier amour, ce qui est important, c'est de ne pas rester juste au premier amour. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus. Et on peut vivre des choses beaucoup plus intenses. Donc, ne pas se dire juste le premier amour. Si on arrive au premier amour, c'est déjà super. Mais si on arrive au-dessus, c'est encore mieux. Plus, encore plus, pour ne pas être dans la routine. Et je vais prendre le dernier passage qui dit, ensuite je vais laisser la place à mon épouse, qui dit... Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» On pourrait y voir le rapprochement avec l'église d'Éphèse également. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » vous qui commettez l'iniquité. Connaître Dieu, le connaître intimement par la foi et dans l'amour, et personnellement, et pas que dans les œuvres ou les miracles, mais vivre dans la plénitude de son amour. Donc avoir la foi et les œuvres, c'est bon, mais avoir son amour, c'est la chose la plus importante. Je vais laisser la place à mon épouse, qui va nous partager, qui va nous parler d'amour.
Vous m'entendez ? Ouais. Donc on vient de voir que... Je vais avancer aussi, il faut que je prenne les repères. Ça bouge pas. Non, je n'appuyais pas au bon endroit, je pense. Ça va aller. Ah bah voilà. Ok, donc on vient de voir qu'il est important d'aimer Dieu. Que c'est important de ne pas perdre notre premier amour. Claudio nous a montré aussi qu'on vient de voir qu'on peut s'éloigner de cet amour, et on a vu aussi ce qui peut nous permettre de demeurer dans cet amour. Mais il y a une question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment aimer Dieu justement. Alors je vais vous donner un petit témoignage, parce que quand on parle d'amour et de comment aimer, nous avec Claudio, quand on s'est rencontrés, au début c'était par des amis. Et donc Mila, en fait, il faut, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut connaître la personne. Pour pouvoir vraiment l'aimer sincèrement, il faut apprendre à connaître la personne. Et quand on s'est rencontrés, donc je disais, au début c'était avec des amis. Juste, moi j'étais dans une classe en BTS où j'étais en fait dans la même classe qu'une amie à Claudio. Et donc on a commencé à sympathiser et puis à devenir amis. Et puis un soir, elle m'a invité à une soirée où ils étaient plusieurs amis pour se réunir et puis passer un bon moment ensemble. Et c'est là où j'ai rencontré Claudio. Donc au début, on était juste un groupe d'amis et puis voilà, on apprenait à se connaître. Et puis, par des échanges et par des circonstances, je ne vais pas rentrer dans le détail du témoignage, mais très rapidement, en fait, avec Claudio, on a eu des naissances de sentiments qui étaient plus que de l'amitié. Et il confirme. Donc, c'est venu très rapidement. Et donc, on s'est très rapidement mis ensemble parce qu'on a eu ce sentiment, j'ai mis ce sentiment vif qui pousse à aimer. C'est la définition, en fait, de l'amour. Si on prend la définition de l'amour dans le dictionnaire, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer et qui pousse à vouloir le bien de quelqu'un et à s'identifier à quelqu'un. Et là, nous, il y avait ce sentiment qui était en train de naître, il y avait cet amour qui naissait en fait entre nous. Mais malgré qu'il y avait cet amour, moi j'avais quand même besoin en fait d'apprendre à le connaître. J'avais besoin d'apprendre à le connaître, de savoir qui il était, de découvrir sa personnalité pour pouvoir lui faire confiance. Parce que c'était bien, on tombe amoureux, c'est bien, mais malgré tout, avec moi, mon expérience passée, avant j'étais pas chrétienne et j'ai rencontré Dieu en fait une semaine et demie après qu'on se soit mis ensemble. Donc c'est vrai que les choses ont été très vite, mais j'ai eu cette grâce-là et c'est vrai que par rapport à mon passé, j'avais connu d'autres garçons avant et honnêtement, j'avais été un peu déçue. J'avais pas forcément eu que des bonnes expériences et du coup, j'avais un peu cette peur et quelques préjugés, parce qu'en plus, on m'a dit, il est d'origine sicilienne. Donc, il y avait un peu les préjugés que certains peuvent avoir. En tout cas, c'était un des préjugés, par exemple, que ma maman avait. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça. C'était que quand je suis venue dans le Nord, parce que pour ceux qui savent pas, moi, je suis originaire de Vendée. Et quand je suis arrivée dans le Nord pour mes études, j'y suis finalement restée par amour aussi. Mais quand je suis arrivée dans le Nord, du coup, ma mère, elle avait trois peurs. C'était une, que j'ai des mauvaises fréquentations qui pourraient m'entraîner dans des mauvaises intentions ou dans la drogue ou dans des mauvais réseaux. Et donc, mes mauvaises fréquentations, la drogue. Et le troisième, c'était les sectes. Donc là, très vite, elle, quand j'ai commencé à parler, on échangeait par téléphone, elle a vite compris que j'avais rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un n'était plus qu'un ami. Donc j'ai dit, bah oui, c'est vrai, on est ensemble. Et puis voilà, donc je lui ai dit qu'il était sicilien. Et sa première réaction, ça a été, oula, sicilien, attention, hein, parce que ils ont le sang chaud, hein, généralement, les Italiens. Et du coup, j'ai dit, oui, mais je dis, c'est un préjugé. J'ai dit, après, il n'est pas comme tous les Siciliens, comme on peut croire. Donc, et en même temps, voilà, quelques temps après, je lui ai dit que j'avais rencontré l'amour de Dieu. Donc, je pense que ça a dû faire beaucoup pour elle. Je me rappelle même pas comment je l'annonçais, mais voilà. Donc, c'est des préjugés qu'on peut avoir, ou des peurs qu'on peut avoir. Et même au début avec Claudio, parfois quand on se voyait comme ça, une fois comme ça, il est venu à mon appartement, puis on parlait, puis plusieurs fois il me dit « je t'aime, je t'aime ». Mais il était sincère. Mais pour moi, le fait qu'il me le dise comme ça et aussi facilement, lui c'était naturel en fait, c'était sincère de tout son cœur, mais pour moi je le croyais pas en fait. J'arrivais même pas à le croire, parce que j'étais méfiante en fait, et je me disais « ouais, c'est facile à dire ». C'est facile à dire, mais est-ce que derrière c'est vrai en fait? Et je lui ai dit, mais l'avantage c'est qu'on a pu se le dire. Je lui ai dit, écoute, je pense que t'es sincère, mais franchement, arrête de me le dire tout le temps parce que je vais plus le croire en fait. J'ai l'impression que c'est trop. Et aujourd'hui, je dis des fois, je dis, bon, bah, maintenant tu peux me dire je t'aime quand même. Avec le temps. Mais du coup, c'était ces petites appréhensions qu'on avait et donc on a eu besoin d'apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, tout à l'heure, justement, Claudio l'a dit, Dieu t'aime, il l'a dit à Zacharie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut entendre facilement, justement. Dans ce que j'avais reçu, c'était que parfois, on peut entendre Dieu t'aime. Qui n'a jamais entendu dire Dieu t'aime? Est-ce que quelqu'un ici, aujourd'hui, n'avait jamais entendu dire Dieu t'aime? Non? Tant mieux, sinon je vous l'aurais dit. Mais Dieu t'aime, en effet. Dieu nous aime. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment à cet amour? Parfois, on a un peu de mal à y croire. Parfois, ça peut être difficile de concevoir que Dieu nous aime tel qu'on est. De concevoir que Dieu nous aime réellement, sans condition. Parfois, on se sent trop indigne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On se dit, maintenant, moi, je passe pas assez de temps avec Dieu, je suis pas assez proche de lui. Donc, comment il peut m'aimer moi, en fait? Ou alors, je suis pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Mais en vérité, Dieu nous aime. Et moi, je sais que dernièrement, j'ai eu des temps difficiles où, par rapport à des situations personnelles, à mon travail ou la fatigue, les enfants, tout ça, j'avais des moments qui étaient durs et c'était des moments où j'étais même moralement pas très bien. Mais je sentais que Dieu me disait « reviens ». Et que je m'étais éloignée en fait, et que j'avais du mal à passer du temps avec Dieu, d'être mis à part pour Dieu en fait. Et j'avais vraiment du mal à revenir à Dieu, et je le sentais au fond de moi, mais j'avais pas. Et je me suis rendu compte même après ce message, alors que je revenais un peu vers Dieu et justement à ce premier amour dont on parle, je me suis rendu compte que parfois, inconsciemment, j'avais des pensées même par rapport à mon propre mari en disant mais ouais, mais Dieu, lui, il passe du temps avec Dieu. Lui, voilà, il va préparer des prédications, il va faire des chants, voilà. Et je dis forcément, Dieu va préférer passer du temps avec lui qu'avec moi. Forcément, il sera plus facile pour lui. Il va préférer être avec lui. Lui, c'est voilà, c'est un choix particulier. Et des fois, on pense comme ça. Des fois, je pense pas être la seule aujourd'hui à penser comme ça. Dieu m'a vraiment interpellée par rapport à ça en me disant, ben, parfois tu peux croire que Dieu il aime plus une personne ou une autre, que Dieu il va passer plus de temps ou va plus parler à une personne ou à une autre ou qu'à toi-même. Et bah, j'aimerais juste te dire que si tu penses ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est juste des pensées, c'est juste des mensonges en fait, que le diable va faire croire que Dieu a un amour conditionnel, alors que Dieu aime sans condition. Et on va voir, pourquoi justement on pense, pourquoi on peut penser comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire en l'amour de Dieu? Pourquoi parfois c'est difficile d'accepter cet amour? Et pourquoi parfois on a ces fausses idées, comme je disais, ces fausses pensées. Alors parfois on entend dire, oui, j'ai pas eu beaucoup d'affection paternelle ou maternelle, donc c'est dur de s'identifier à Dieu comme un père. Et c'est vrai, il y a une multitude de raisons. On peut trouver une multitude de raisons pour lesquelles on aurait du mal à croire à cet amour. Mais la vraie raison, en tout cas je pense que c'est ce que Dieu m'interpellait, c'est que la vraie raison, c'est qu'on a une conception de Dieu qui est faussée. On a une fausse conception de Dieu parce que on se met en fait des barrières, on pense que Dieu, je sais pas, Dieu juge, que Dieu ne pourra pas nous accepter tel qu'on est, alors que c'est des mensonges. C'est pas ce que la parole nous dit en fait. Je lisais un livre dernièrement, et j'ai commencé à lire ce livre justement qui est Passion pour Jésus. Et il disait justement dans un passage, il disait « Nous pouvons connaître un renouveau temporaire grâce à la prière, mais pour acquérir renouveau et liberté à long terme, il nous faut changer notre conception de Dieu. » Et je pense vraiment qu'on doit justement se rappeler ou revenir à la vraie question de qui est Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu pour nous est variable? Est-ce que son amour dans le temps peut s'estomper? Est-ce que son amour peut être calculé en fonction de notre état de cœur ou de notre état moral ou de notre état physique? Bien sûr, on sait que non. Mais on va prendre un passage qui nous en parle justement dans 1 Jean 4, versets 7 à 21. Et qui dit justement... Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Dans ce passage, on voit que Paul nous parle justement de l'amour de Dieu, de sa nature même en fait. Le fait que justement Dieu est amour. Et par sa parole, si on croit en Dieu, si on croit en Jésus, on sait que sa parole est vérité. Et juste en lisant ce texte, on peut voir que justement il dit « Dieu est amour ». Et c'est juste cette parole-là doit nous permettre de refuser les pensées ou les paroles qu'on peut avoir qui nous disent que Dieu aurait un amour conditionnel ou que Dieu ne serait pas si amour que ça. Justement parce que Dieu aime sans condition. Je ne vais pas rentrer dans la théologie, mais quand on prend le mot « amour » dans la Bible, la traduction c'est « agapé », qui veut dire « amour sans condition ». Et on voit que Dieu justement a fait don de sa vie pour nous en donnant son Fils. Ce passage nous le rappelle pour nous rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour justement. Et si j'ai pris ce passage aussi, c'est pour revenir justement sur la situation d'Éphèse, où tout à l'heure on disait qu'ils ont oublié l'amour de Dieu en fait. Ils ont oublié que Dieu est amour. Pourquoi on peut dire ça? Parce que en fait, ça avait des conséquences. Leur envie de bien faire a eu des conséquences sur leur amour fraternel. dans certains commentaires bibliques, on voit, alors justement, excusez-moi, c'est pas la bonne page. On voit qu'Éphèse justement paraissait comme une église, comme disait Claudio tout à l'heure, très active, très développée, qui défendait justement, comme je disais, la vérité, qui défendait la doctrine, qui essayait d'alerter sur les faux prophètes, ce qui était finalement des bonnes choses. Mais il y a certains commentaires qui disent que justement cet activisme extérieur, ça reflétait en fait ce qui manquait à l'intérieur, c'est-à-dire l'amour aussi fraternel. Et on dit même que Éphèse, en fait, en s'opposant à ces fausses doctrines, ça c'est ce qu'on trouve dans des commentaires bibliques, c'est qu'ils ont introduit l'esprit en fait de jugement, de division. Et de ce fait-là, ils ont abandonné en fait leur premier amour. Là, on parle au sens amour fraternel, parce que en voulant bien faire, en fait, l'esprit de division, l'esprit de jugement est venu et a fait que cet amour justement entre les frères et sœurs était peut-être moins présent. Était moins fort qu'au tout début, finalement. Parce que l'amour de Dieu, justement, n'était pas manifesté comme au premier amour. Et ça nous permet de voir, justement, que l'amour envers son prochain ou envers notre frère ou notre sœur ne peut pas se manifester sans l'amour de Dieu et envers Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. On ne peut pas se forcer à aimer Dieu, on ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. Parce que Dieu nous a justement aimé le premier. C'est ce qu'il nous dit au verset 19. Si ça veut bien se rafficher. Il dit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et j'ai bien aimé justement dans cette version, ils mettent le L apostrophe entre parenthèses. Et on peut le lire comme, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est-à-dire que si lui nous a aimés le premier, on est au bénéfice de cet amour. On a juste à accepter en fait cet amour parfait, sans condition. Et si on accepte cet amour, alors on pourra l'aimer en retour. Ce sera naturel. On aura envie de l'aimer. On aura envie d'apprendre justement à connaître plus Dieu. On aura envie de passer du temps avec lui. Si on le connaît, on n'aura pas de difficulté. Si on est sûr du cœur de Dieu, on n'aura pas de difficulté à revenir vers lui. On n'aura pas de difficulté à vouloir passer du temps avec lui et à marcher avec lui dans la même direction. Et j'avais justement une image pour illustrer ça. Je vais rappeler mon mari et on va enlever le pupitre. Et ce qui est marrant, c'est que, comme disait Claudio, la semaine dernière, Bruno a parlé du contrat et de l'alliance. Et honnêtement, j'avais pas, comme j'étais pas là la semaine dernière et Claudio faisait les enfants. Ben, j'avais pas eu le temps de regarder le message cette semaine, et je l'ai regardé hier soir, après qu'on ait justement finalisé le message. Et Claudio m'avait dit, ben, tu vois, il a pris une image où il prenait Maryse justement comme ça pour montrer le symbole de l'Alliance. Et sur le coup, je me suis dit, ah ben, mince, mon image s'en rapproche un peu. Mais quand j'ai vu le message, je me suis dit, Seigneur, merci, parce que c'est juste des confirmations. Et par rapport au premier amour, je voulais juste montrer cette image où, bah, comme dans un couple, quand on est ensemble et qu'on est dans le premier amour, on va tout faire pour marcher dans la même direction. Puis on va avancer, on va continuer à marcher. Puis au bout d'un moment, il peut y avoir, comme on disait, la routine ou les éléments de la vie qui viennent un petit peu nous distraire. Puis on parle un peu moins ou on va commencer à faire juste un pas de côté. Mais au fur et à mesure, en continuant sur la route, il y a un moment où on va s'éloigner. On ne va plus être en connexion. Et si on reste chacun comme ça, ben on s'éloigne vraiment, on n'a plus la connexion. Là, je ne peux plus être en connexion avec mon mari. Je n'ai plus l'unité. Et généralement, en prenant deux voies comme ça, on finit par ne plus regarder finalement dans la bonne direction. On regarde chacun dans sa direction, et puis on reste chacun dans sa voie. Et avec Dieu, c'est pareil, en fait. On va apprendre à un moment donné et se dire, oh, ouais, mais là, je n'ai pas le temps, Seigneur. Là, tu comprends, puis je n'ai pas envie. Et puis petit à petit, on tourne le regard. Puis on ne regarde plus dans la bonne direction. Et parfois, on a peut-être juste besoin d'avoir quelqu'un qui vienne nous dire « oublie pas, au fait », ou juste de reparler, simplement. Et parfois, ça peut être un message. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message dans la semaine, et ça m'a encouragée à nouveau. Et du coup, par rapport à ça, je vous encourage aussi à s'encourager mutuellement. Parce que parfois, tu ne sais pas le message. Tu vas peut-être juste envoyer un bonjour, mais tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir derrière. Et dans un couple ou avec Dieu, c'est la même chose. On doit toujours, en fait, cesser d'encourager. Et si on n'est pas dans la bonne direction. Il faut juste oser faire demi-tour, oser regarder. Et si je connais le cœur de mon mari, si je sais qu'il m'aime, aujourd'hui je sais qu'il m'aime, mais si je sais qu'il m'aime, je ne vais pas avoir peur de revenir vers lui. Et inversement, même si je me suis disputée ou même s'il y a des choses qu'on n'était pas d'accord. Et je peux de nouveau être en unité. Je peux de nouveau être unie avec lui. Et Dieu demande la même chose. Juste qu'on tourne le regard, qu'on regarde vers Dieu et qu'on sache que Dieu nous aime et qu'il est prêt à pardonner, qu'il est prêt, qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne et qu'on puisse revivre ce premier amour avec lui. Parce que son désir, c'est qu'on soit dans sa présence, qu'on soit avec lui et qu'on puisse à nouveau marcher dans la même voie, dans la même direction. Amen.